Depuis quelques mois, les artistes et leurs partenaires agricoles se sont rencontrés. Ils ont discuté. Les artistes ont visité les fermes, marché les champs, côtoyé les animaux. Leurs visites ont été nombreuses dans certains cas. Et le processus de préparation, d'interprétation et de création s'est accéléré. J'ai rencontré un artiste photographe dans un champ de la Naudière.
Marielle Lehmann, artiste. Un artiste qui utilise principalement la photographie, mais qui travaille aussi avec le son. Dans le cas de ce projet ici, c'est principalement un travail photographique qui va être présenté.
Et ici, on est en dehors de votre champ habituel, géographiquement parlant. Là, on est dans le coin de Joliette, Saint-Thomas-de-Joliette. Qu'est-ce que vous faites ici?
Pour ce projet-là, j'ai été jumelé avec un agriculteur, la ferme Bonne-Terre. Donc avec Sylvain Renaud de la ferme Bonne-Terre. L'idée du projet de mettre ensemble un artiste et un cultivateur pour développer un projet artistique. Donc la relation entre l'artiste et le cultivateur est une partie, je dirais, quand même assez importante du projet. La ferme de Sylvain est ici dans la région de Joliette, donc aux alentours de Saint-Paul, Saint-Thomas. Pourquoi la ferme Bonne-Terre puis pas une ferme plus proche de Québec? En fait, la demande que j'avais faite au commissaire de l'exposition, c'était d'avoir quelque chose qui allait me challenger. Je m'intéresse principalement aux modifications que le territoire rural québécois subit. Et j'étais intéressé à travailler avec des cultivateurs de grande surface. Ce qui est intéressant avec la ferme de Sylvain, c'est qu'il est en agriculture biologique.
Justement, le fait que ce soit de l'agriculture biologique, ça vous rejoint, là. Ça vous rejoint dans votre rapport à l'agriculture.
Ça me rejoint évidemment dans mon rapport à l'agriculture parce que mon grand-père avait déjà une ferme en biologie en Suisse dans les années 60. Donc, il y a un aspect familial là qui est important. Mais je dirais que dans le cadre de ce projet-là, pour moi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qu'on nous présente de l'agriculture biologique, un format qui est, je dirais, idéalisé ou romantisé, le fait d'avoir une ferme de céréales à grande surface et d'être en agriculture biologique peut sembler contradictoire pour bien des citadins qui ont cette vision idéaliste de l'agriculture biologique. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'amener le spectateur, qui est aussi un consommateur, à réfléchir sur les choix qu'il va faire et sur la façon dont on s'alimente. Et je trouve ça extrêmement intéressant de travailler sur ce projet-là parce que, bien, évidemment, moi-même, ça va m'amener à réfléchir sur ma perception de l'agriculture biologique, puis j'ai déjà une assez bonne compréhension de l'agriculture. Et les gens qui sont déconnectés de l'agriculture, qui sont citadins, quand je leur parle du projet, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Les gens, ils arrivent difficilement à imaginer qu'est-ce que ça peut représenter. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant pour ça. C'est intéressant parce que ce qu'on nous présente de l'agriculture biologique, c'est souvent la petite ferme familiale. On nous parle beaucoup des petites fermes maraîchères. Il y a toute la question de la permaculture. Alors, évidemment, le projet de Jean Martin avec l'émission de télévision, les passages à Tout le monde en parle, etc., prennent beaucoup de place médiatique. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça fait l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, c'est une vision de l'agriculture qui convient très bien aux citadins, qui convient très bien à ceux qui essayent de leur vendre la nourriture aussi, mais qui est loin de la réalité. Alors, j'essaye avec ce projet-là d'amener les gens à réfléchir sur ce qu'est la réalité et sur le fait que même si je trouve des initiatives comme la permaculture absolument formidables, ça reste qu'au Québec, les gens sont maintenant majoritairement dans les villes. Donc, on a à la fois beaucoup de gens dans les villes qu'il faut nourrir et très peu d'agriculteurs dans les campagnes pour les nourrir. Et ça implique donc qu'à un moment donné, le système dans lequel on vit a besoin de cultivateurs comme Sylvain qui font de la production à grande surface. Mais évidemment, quand on a des valeurs liées au biologique, à des valeurs environnementales, on préfère ne pas savoir que la batteuse qui a récolté notre blé pour notre pain bio a 650, 700, 800 chevaux avec tout ce que ça consomme de diesel. Il y a quelque chose de confrontant là-dedans. Et pourtant, ben, il le faut. On ne peut plus récolter avec des chevaux comme mon grand-père le faisait parce que tout simplement, on n'a plus assez d'agriculteurs, on n'a plus assez de main-d'œuvre pour le faire. Donc, on a besoin de mécaniser. Cela dit, je préfère nettement une production de ce type-là, mais qui reste biologique et donc qui va quand même être écologique, plutôt que des entreprises qui vont travailler avec du Roundup, avec des OGM, etc. Et on n'en a pas assez. Pour l'instant, c'est très peu. On parle de 2 % de la production québécoise. On veut le doubler en montant à 4 %, mais 4 % de la production québécoise en bio, c'est rien. on devrait avoir plus que ça. Donc, plus que ça va impliquer aussi plus de fermes comme celle-ci. Ça ne sera pas uniquement des petites fermes de petite taille. Et ça reste une entreprise familiale. Hein. La question de l'entreprise familiale, c'est un terme qui est un peu galvaudé, parce qu'on peut avoir une entreprise familiale qui est une ferme maraîchère de 2 hectares, puis on peut avoir une entreprise familiale qui est une ferme céréalière de 1400 hectares. C'est les deux des entreprises familiales. Donc, pour moi, ce terme-là ne veut pas dire grand-chose. Il veut dire que c'est une famille qui est propriétaire, qui s'en occupe, mais c'est le cas d'à peu près toutes les fermes au Québec, de toute manière.
On parlait au départ de votre rapport à l'agriculture. Vous avez parlé de votre grand-père en Suisse dans les années 60, mais vous avez été baigné, vous, comme enfant et adolescent et jusqu'à l'âge adulte, dans une ferme au Québec, ici.
Oui, absolument. Mes parents ont une ferme. Donc, en fait, mes parents avaient une ferme en Suisse. Quand ils sont venus s'installer au Québec, c'était pour acheter une ferme. Et donc, j'ai passé toute mon adolescence jusqu'au début de ma vie de jeune adulte sur une ferme. Et j'y retourne encore. Donc, mes parents ont cette petite ferme familiale qui fait de la production laitière et du fromage, qui ne sont pas certifiés biologiques, mais qui travaillent selon les principes du biologique. Et en fait, mon père se plaît à dire qu'il a déjà assez d'inspecteurs avec le MAPA, qu'il n'est pas pour se rajouter ceux d'Écossaire. Tout ça pour dire donc que c'est une petite ferme qui travaille selon les principes biologiques et à cause de la transformation du lait par le fromage, mais ils sont capables de faire vivre plusieurs familles, ce qui n'est pas le cas d'une ferme laitière traditionnelle au Québec où on fait difficilement vivre une seule famille. Donc ce modèle-là aussi est intéressant. Mais dans le cas de ce projet-là, je voulais justement quelque chose qui me sort de ça, donc qui était différent, qui m'amènerait à une agriculture que je connais moins et qui m'amènerait à me poser des questions et à réfléchir au lieu d'avoir une seule vision. Mes projets précédents ont beaucoup travaillé sur justement cette industrialisation de l'agriculture parce que j'étais assez sensible à me rendre compte que le rang dans lequel j'ai passé mon adolescence, des 14 fermes laitières qui existaient, il n'en reste que 2 ou 3. Et il y avait une recherche de ces fermes qui disparaissent. Et mes travaux précédents étaient certainement critiques de cette industrialisation-là. Au Lac-Saint-Jean, par exemple, on a un développement des monocultures, on a un développement de cultures non traditionnelles comme le maïs, le canola, le soya, toutes des cultures qu'on ne retrouvait pas à mon arrivée il y a une trentaine d'années. Et j'étais assez critique de ça. Maintenant, c'est facile d'être critique, mais les choses changent. Puis en fait, c'est beaucoup plus... J'essaye de ne pas juger, mais de simplement poser un regard sur ces changements et de partager ce regard avec les autres, avec le spectateur.
Et vous allez montrer quoi? Vous cherchez à montrer quoi à l'exposition Orange?
À l'exposition Orange, ce que je veux amener, c'est amener le spectateur à prendre conscience que ce qu'il a dans son assiette provient de quelque part et ne provient probablement pas de la façon dont il se l'imagine et dont on lui montre. Donc, je vais premièrement présenter des produits alimentaires, des produits de base comme de la farine bio, des conserves de légumes, etc., qui peuvent avoir été produits par la ferme de Sylvain. Donc, amener vraiment l'étape finale où le consommateur s'en va, par exemple, dans son épicerie bio puis achète un produit. Je veux que ce produit-là soit là pour que le spectateur fasse tout de suite le lien. Que le produit qui est là, c'est celui qui se procure et les images qu'il va voir font partie du processus de production de ce produit-là pour faire un lien entre les deux. Dans une deuxième partie, il va y avoir des photographies que j'ai réalisées sur les champs, donc des photographies des récoltes, des semences, du travail de désherbage, etc., qui présente l'immensité des champs, qui présente l'immensité de la ferme, qui présente l'immensité des machines aussi, tant des tracteurs que des différentes machines, des moissonneuses, etc. Donc, qui rend compte de l'importance, de la grandeur de cette exploitation-là. Et ensuite, le dernier aspect qui m'intéresse, c'est la façon dont les technologies numériques sont complètement entrées dans le milieu de l'agriculture. Et ça, c'est une autre chose qui m'intéresse beaucoup. Sur la ferme Bonne Terre, on utilise les données de façon massive. Premièrement, l'ensemble des tracteurs, des moissonneuses ont des systèmes GPS qui géolocalisent les machines, qui envoient des informations en temps réel à un serveur et qui permet de savoir pour chacune des parcelles quelles opérations ont été faites, à quelle profondeur telle machine travaillait la terre, quel est le taux de rendement en temps réel, à peu près aux 16 pouces, là, sur une parcelle de plusieurs hectares. Donc, on a beaucoup, beaucoup de données qui sont envoyées, qui sont traitées et qu'on peut ensuite utiliser. On va utiliser aussi des technologies comme les drones, comme des images satellites. Sylvain reçoit régulièrement des images satellites de ses champs. En agriculture biologique, c'est extrêmement important parce que le moment où on décide, par exemple, de désherber est capital. Juste quelques jours de différence peuvent faire changement. Donc, avant, Sylvain marchait ses terres, mais évidemment, sur 1400 hectares, les marchés, c'est compliqué. Donc, maintenant, on utilise les technologies satellites et les drones pour survoler les champs, puis analyser l'état des champs, puis déterminer si oui ou non, donc, on a besoin d'aller désherber à ce moment-là. C'est intéressant parce que, justement, Sylvain est capable d'avoir des rendements en agriculture biologique qui sont très, très similaires aux rendements qu'on a en agriculture conventionnelle, ce qui va à l'envers de beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Une des façons d'obtenir ces rendements-là, bien, c'est justement par l'analyse de toutes ces données-là. Ces données-là permettent de raffiner les techniques de production et d'augmenter les rendements, mais en restant dans le biologique. Et je ne pense pas que ça se ferait facilement sur cette superficie-là sans toutes ces données. Donc, il va aussi y avoir un catalogue de données, qui est un livre qui regroupe les données agronomiques de la ferme Bonne Terre depuis 2009. Donc, l'ensemble des parcelles, l'ensemble des données agronomiques via des schémas qui sont représentés sur des cartes géographiques, donc des vues satellites comme avec Google Maps. Et on a ces données-là via des codes de couleurs implémentés sur les champs. Et l'idée n'est pas tant de donner une information précise, mais plutôt de rendre compte de la quantité massive de données qui existent et qu'on utilise maintenant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant parce qu'encore là, dans notre image de l'agriculture romancée et idéalisée, on a tous des téléphones cellulaires, on vit tous complètement baignés dans le numérique, mais on a l'impression que les fermiers ne le font pas, ce qui est complètement faux.
À certains égards, comme dans le cas de M. Reynaud, ils sont beaucoup plus avancés que la plupart d'entre nous, les consommateurs.
Oui, oui, bien, c'est fascinant de voir à quel point c'est avancé. C'est fascinant, par exemple, de savoir que sur son téléphone, il a accès à la position exacte de l'ensemble de son parc de machinerie, de savoir qui fait quoi, à quel moment. Il peut savoir la vitesse d'avancement du tracteur ou la quantité de grains à l'hectare qu'on sème. On va aussi précis que ça. Il est capable de savoir, oh, actuellement, tel employé est dans tel champ, à telle position et est en train de semer tant de grains de maïs à l'hectare. Alors, c'est assez fascinant.
Donc, ce sera une œuvre, ce sera une présentation très élaborée là, que vous préparez. Là.
Contrairement à ce qu'on retrouve beaucoup en photographie, où on présente une série de photographies, puis l'objet de l'œuvre en elle-même est juste une série de photographies, dans le cas de l'œuvre qui va être présentée à Orange, on parle d'une installation photographique. Donc, le principe de l'installation, c'est que chacun des éléments présentés dans l'espace entre en relation et les relations entre ces différents éléments-là font autant partie de l'œuvre que les objets. Alors, ça touche à plusieurs formes. Donc, par exemple, mon sac de farine qu'on pourrait associer à ce qu'on appelle le ready-made qui provient de, entre autres, de Duchamp, par exemple. Bien, on a eu une certaine pratique où on prenait des objets et en les mettant dans une galerie d'art, on leur imposait un statut d'objet d'art. Dans ce cas-là, c'est pas tout à fait ça l'idée. Oui, il y a un objet, mais l'idée de cet objet-là est de démontrer une relation. Donc, entre le produit final et certaines des photographies et le catalogue des données et l'espace et le spectacle qui navigue dans cet espace-là. En fait, mon travail est beaucoup plus à propos des processus que les images en elles-mêmes. Les images, pour moi, sont des documents qui me permettent d'illustrer une partie des processus qui sont en jeu. Donc, moi, le processus que j'ai comme artiste quand je rentre en relation avec Sylvain puis avec son exploitation, les différents processus qui ont lieu aussi sur l'exploitation de Sylvain pour en arriver à un produit fini qui est ce fameux sac de farine qu'on achète. Donc, c'est de présenter ces différents éléments-là et que le spectateur qui arrive dans l'espace consulte ces différents types de documents qui peuvent être des photographies, donc les catalogues d'autres objets, et par sa réflexion, les met en relation les uns avec les autres, puis en arrive à ses propres réflexions et à sa propre déduction.
Muriel Lehmann, merci beaucoup pour tous ces détails de ce que vous préparez. Et comme on le disait au départ, bien, on est sur le bord d'un champ. C'est un champ d'épeautre. Bien, je vais vous laisser aller parce que vous voulez profiter de la belle lumière qu'on a aujourd'hui justement pour ajouter d'autres photographies là, à votre échantillonnage là, que vous faites en prévision de l'exposition.
Voilà, c'est le sprint final. Donc, on tombe dans la récolte du blé d'automne et de l'épeautre. Ici, ce matin, on a un champ d'épeautre qui n'a pas encore été récolté, qui est absolument magnifique, qui est presque à perte de vue. Je voulais avoir cet épeautre-là brut avant qu'il soit, avant que j'aie des images de la récolte et avant qu'on le retrouve sous forme de farine.
Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour l'exposition. Ou je devrais dire merde.
Oui, merde, bonne chance. Les deux, ça va, je suis pas trop superstitieux.
Merci beaucoup.
Merci.
Ce que veut dire et surtout montrer Muriel Lemon est un projet complet en lui-même. D'ici au 15 septembre, Muriel Lemon sera plongée dans sa création. Ils sont 12 autres artistes à préparer leurs œuvres. Ici Lionel Levac. Au cours des prochaines semaines, je reviendrai à quelques reprises vous parler de cette exposition « Conjuguer la traçabilité » sous le chapeau de la Triennale Orange, l'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe. La prochaine artiste que je vous présenterai sera Amélie Proux, céramiste qui s'est plongée dans le monde de l'apiculture. À bientôt.